Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci d'être fidèle à Fidèle au poste. Bande dessinée, histoire, musique sont au programme de notre demi-heure divertissante autour de la culture et de la pop culture. Après la musique du film « Le bon, la brute et le truand » de l'immense Ennio Morricone, nous parlerons d'une toute nouvelle bande dessinée, « Frères d'Orient ». Vienne, 1938. Alors que l'Europe est sur le point de sombrer dans l'abîme de la Seconde Guerre mondiale, deux vieux amis se retrouvent après s'être perdus de vue depuis des décennies. Benjamin est juif et Hakim, lui, musulman. Ils ont grandi dans le même village du Yémen où leurs deux communautés ont cohabité des siècles durant en bonne entente et en harmonie. C'est le cadre choisi pour sa première bande dessinée, Frères d'Orient, par la dessinatrice italienne Benedi. La jeune autrice nous invite à plonger dans une épopée qui traverse le siècle, mêlant conte oriental, réflexion sur la foi et le fanatisme, reconstruction historique minutieuse et fable éclairée.
Moi, j'avais eu l'idée de rédiger une histoire, de faire une histoire qui aille comme protagoniste des personnages juifs dans un pays à majorité musulmane. Et j'ai commencé à creuser et par hasard, je suis arrivée à connaître le Yémen, qui se prêtait parfaitement au récit que je voulais raconter, de par son histoire, de par la particularité de l'histoire juive dans ce territoire, le rapport avec la majorité musulmane, ainsi de suite. Et à fur et à mesure que j'ai mis des recherches aussi documentaires pour avoir un cadre le plus possible correct de ce qu'avait été ce territoire et donc l'histoire de la présence juive dans ce territoire, et le plus ça m'a touchée aussi, et le plus ça a été pour moi important de justement d'un côté raconter l'histoire que je voulais raconter depuis le début, le sujet, et de l'autre de raconter l'histoire cachée, l'histoire perdue de, ce, de cette communauté et de ces rapports qui avaient eu lieu et qui ont, bah, qui ont terminé leur existence avec ensuite la fondation de l'État d'Israël quand la majorité des Juifs a été par plusieurs vagues contrainte à partir. Le Yémen n'intéresse personne, outre que la question juive. Donc c'était pour moi important de porter de l'attention sur ce territoire, sur ce pays qui a une histoire très très particulière, qui est richissime, qui a été un peu le berceau de la culture arabe, donc, et qui a énormément influencé la culture matérielle, musicale, artistique, même religieuse juive, de façon très très profonde.
Dans cette histoire, le fruit d'une erreur de Benjamin a libéré un Jnoun qui sème la zizanie dans le petit village. Alors que ce dernier proclame l'interdiction formelle de quitter le village et même de sortir de la maison pour les hommes, les enfants et les femmes demeurent libres d'aller comme ils le souhaitent et la résilience s'organise grâce à la solidarité de ces derniers.
C'était important de, pour moi par exemple de discuter la question du féminisme et comment justement les femmes dans ce contexte-là profitent de cette crise pour se mettre en avant et comment à mon sens les crises parfois sont des moments qui permettent qui ont permis aux femmes de se mettre en avant. Et mon histoire permet à ces femmes, grâce à la crise, de changer leur rôle de, et aussi de reconfigurer leur position au sein de leur société respective, qu'elle soit juive ou la musulmane, en s'appuyant sur leurs textes sacrés et en faisant en sorte que ces textes sacrés qui parfois les mettent de côté soient l'outil pour justement leur permettre une émancipation.
L'amitié sincère et honnête d'Hakim et de Benjamin va traverser bien des épreuves avant de parvenir à triompher des conflits intercommunautaires. La bande dessinée « Frères d'Orient » de la dessinatrice Benedi est disponible aux éditions Sarbacane.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Place à la musique, mélange de Jean-Sébastien Bach et de la Panthère Rose, ces 2 minutes 30 étonnantes proposées par Stéphane Delplace. Un professeur d'histoire du collège de Lourdes, Louis Luciani, décide avec ses élèves de préparer le concours national de la résistance. Leurs travaux minutieux vont mettre en lumière une vérité que les Corses n'ont jamais voulu brandir comme un exploit. La Corse est le seul département français à n'avoir pas déporté de juifs pendant la Shoah. En 1941, le gouvernement de Vichy donne l'ordre aux préfectures d'arrêter les juifs étrangers. Le préfet de Corse, Paul Ballet, transmet alors son rapport. Il n'y a que 146 juifs en Corse, pas un seul enfant et surtout, aucun juif étranger. C'est bien entendu un énorme mensonge, car dissimulés aux quatre coins de l'île, les familles juives ne sont pas rares. Des familles françaises, mais aussi allemandes ou autrichiennes, qui sont venues se réfugier au début du conflit, ou encore 800 juifs ayant fui en 1915 les tensions de la fin de l'Empire ottoman. Quand en août 1942, Vichy commande de grandes rafles, aucune n'aura lieu en Corse. Serge Klarsfeld, historien et avocat, défenseur de la cause des déportés juifs de France.
Il n'y avait pas que des justes en Corse, mais il y a eu beaucoup de justes en Corse qui ont aidé les juifs à traverser l'année 1942, essentiellement, et 1943 aussi, sans être arrêtés et déportés. La Corse est le seul département de France à n'avoir livré aucun juif, à part un juif qui a été arrêté après la grande rafle du 26 août 1942, à cause du secrétaire général de la préfecture qui était hostile aux juifs et en l'absence du préfet qui lui était particulièrement philosémite et qui a beaucoup aidé les juifs. Je pense que le préfet de Corse avait été également, il n'aurait peut-être pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été influencé par les traditions corse. Si la population avait réclamé l'arrestation des juifs, s'il y avait eu des lettres de dénonciation, si les officiers, la gendarmerie avaient été hostiles aux juifs, eh bien, si les maires avaient été hostiles aux juifs. Or, les réponses des maires, c'est aucun juif dans nos communes. Donc, on aurait arrêté les juifs si la population avait été hostile aux juifs. L'influence seule du préfet n'aurait pas été suffisante pour contrecarrer la volonté et de la population et d'organes de l'État.
Peut-être que les juifs, entre eux, ils ont transmis ça, entre eux, grand-père, père et petits-enfants, et que chez nous, c'était pas un fait historique, parce que pour eux, c'était normal.
Come? Ti ricordi quello dragolino?
Vraiment, le vrai dragolino à la base, dans les temps, c'était le marchand de ville, le balanais. Et les juifs, ils sont venus après.
Si la Corse s'est montrée exemplaire durant la Shoah, l'histoire entre les juifs et l'île de Beauté date de bien longtemps. Elle commencerait autour de l'an 800 de notre ère, quand une immigration venue d'Égypte se serait installée dans le sud de la Corse, principalement à proximité de Lévis, village situé à environ 20 km de Porto Vecchio. Par la suite, les membres de la communauté se sont dispersés un peu partout dans l'île, en devenant partie intégrante de la population autochtone. Michael Langlois, chercheur.
Pour ce qu'on sait de l'histoire de l'Antiquité, on sait qu'il y a une présence, alors, de populations sémites, notamment les Phéniciens, ce sont les voisins des Hébreux, ils parlent la même langue, vraiment peu de choses près, hein, c'est le même, quelques petites différences dialectales. Et on sait par exemple que les Phéniciens avaient des comptoirs commerciaux dans toute la Méditerranée. Au tournant de notre ère, on a une mention des Juifs. Alors là, pour le coup, c'est malheureusement une source un petit peu triste, puisque c'est l'empereur Tibère qui exile des Juifs. Et il les déporte et il les envoie dans la province romaine de l'époque, qui est la province qui réunit la Sardaigne et la Corse. Alors on ne dit pas exactement à quel endroit ils sont placés, mais on sait que la Corse, à l'époque romaine, était utilisée une sorte de prison géante. Vous voyez, on déportait des gens, les envoyait là-bas, à cause de la topographie, du relief, on disait on va les envoyer là-bas. Et donc il est possible que, sous l'empereur Tibère, donc au tournant de notre ère, qu'il y ait plusieurs milliers de juifs qui étaient déportés en Corse. Ce serait peut-être la première implantation, en tout cas attestée de sources littéraires.
C'est en plein siècle des Lumières que la petite île de Bergé et de Montagnard se métamorphose en République moderne. En 1755, Pascal Paoli, tout juste 30 ans, dote la Corse d'une constitution prônant la souveraineté du peuple et donne ainsi aux Juifs leur premier statut de citoyen à part entière.
Paoli dit, et donc il est vrai que Paoli à Île-Rousse reçoit des familles, les Savilles, les Blasines, les Salvini par exemple, qui sont des familles juives qui sont venues s'installer pour développer le commerce. Il y a une chose qui est très importante pour la Corse, c'est l'existence de la franc-maçonnerie dès le milieu du XVIIIe siècle. On ne sait pas trop quand Pascal Paoli a été initié. Bon, on est certain que Pascal Paoli est franc-maçon à partir de 1778 en Angleterre, et il est certain que ça a énormément joué en matière de tolérance religieuse. Et Napoléon, qui est fils de maçon, donc Carlo Bonaparte était maçon ajaxien, son frère Joseph était louveteau, et donc Napoléon a grandi dans cette atmosphère. Napoléon est quelqu'un qui est à l'origine du premier grand statut d'une communauté juive. Napoléon, alors qu'il est que Bonaparte, en 1797, découvre ce qu'est un ghetto. Il découvre ce ghetto à Ancône, donc en Italie. Il voit des hommes qui portent donc la rouelle, qui portent un bonnet jaune, qui portent un brassard. Et l'idée force de Napoléon, c'est d'intégrer les juifs à la citoyenneté. Et il y a de très belles phrases de Napoléon au sujet de la communauté juive. Il dit « Mon premier désir était de libérer les juifs et d'en faire des citoyens à part entière. Je voulais leur accorder les droits de liberté, d'égalité et de fraternité dont jouissaient les catholiques et les protestants. »
En 1492, le royaume chrétien d'Espagne expulse ses juifs et les convertit de force. Naissent alors des maranes, des juifs convertis au catholicisme qui continuent à pratiquer leur religion en secret. Au XVIe siècle, des juifs maranes émigrent en Corse. Ils portent des noms devenus aujourd'hui célèbres, Zuccarelli, Giacobbi, Simeoni. Plusieurs générations après, des rituels ancestraux existent toujours sans que pour autant ceux qui les réalisent en connaissent la signification initiale. C'est le cas de ces familles chrétiennes qui encore aujourd'hui allument des bougies tous les vendredis soirs et d'autres qui bannissent le blé pendant la période de Pâques. Didier Long.
Ma grand-mère était extrêmement catholique, était extrêmement pieuse. Son mari étant mort très jeune, elle vivait toute seule dans son appartement avec sa mère qui, elle, ne parlait que corse. Elle dormait dans le même lit avec leurs deux, et il y avait leurs deux filles. Et cette femme-là, en fait, offrait des cédras. En fait, tous les automnes, quand l'hiver arrivait, pour Noël, elle envoyait un gros cédra confit à la maison. Et toutes les années, on recevrait le cédra confit. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, quoi. Je croyais que c'était un truc chrétien. Voilà.
En réalité, l'histoire des hétrogimes de Corse, les cédras en hébreu, est une très ancienne histoire juive. Le cédra est utilisé dans le rituel de la fête juive de Soukhot, la fête des cabanes. Il doit être, selon la tradition rabbinique, sans tache, avec sa queue, non greffée, et fait l'objet d'une surveillance très stricte et coûte donc très cher. Depuis le XVIIe siècle au moins, Gênes était la place centrale où toute l'Europe venait se fournir pour ses fruits rituels avant que la production corse ne supplante celle de la côte ligure. Le cédra de Corse, espèce la plus ancienne, présentait la particularité rare d'être encore cultivé franc de pied, c'est-à-dire sans greffe. C'est ainsi qu'en 1875, les rabbins de Lituanie, avec à leur tête Rav Kovna et Yitzhakel Arman Spector, interdisent l'utilisation des hétrogimes de Corfou à Soukhot pour encourager ceux de Corse. Jean-Claude Ribaud, agrimiculteur.
Moi, mon sentiment, tout le cédra dans le bassin méditerranéen, c'est l'aventure juive, c'est l'aventure israélite, c'est le culte qui le propage. On trouve des juifs ici en Corse il y a longtemps, hein. Ils sont venus après, Pascal Paoli en a fait venir, mais même avant, c'était la culture juive qui a fait introduire le cédra dans tous les endroits possibles et imaginables en Méditerranée.
François Lureau, chercheur à l'INRA.
Donc on en trouvait par exemple au Maroc, on en trouvait en Italie, en Sardaigne, un peu partout. Partout il y avait une communauté juive. Et la Corse a été également une terre qui a fourni, qui prétendait et qui a vendu également des cédras à la communauté juive. Et on en retrouvait un peu partout en Corse. On parle surtout du Cap Corse, parce que c'est beau, les terrasses qui descendent jusqu'à la mer. Mais on en trouvait dans le Niort, on en trouvait dans Castagniche, on en trouvait dans la région de Cervione.
De nos jours, il existe deux synagogues, l'une à Ajaccio et l'autre à Bastia. À côté de ces communautés historiques, des centres Chabad font vivre le judaïsme insulaire, même si ces lieux juifs ne sont ouverts que quelques jours par an.
Je suis né en Corse, oui, à Bastia exactement. Alors moi, la communauté juive, je suis présent tout simplement quand on a besoin de moi pour faire ne se fût-ce qu'un minyan. Malheureusement maintenant, souvent deux fois, c'est plus pour des décès qu'autre chose. Donc automatiquement, je descends pour faire honneur, quoi. Bon, mais autrement, on n'a pas de, je n'ai pas par exemple de contact journalier ou même à la semaine. Je n'ai qu'occasionnellement, et puis de toute manière, la communauté juive de ce fût-ce qu'à Bastia, maintenant, elle est pratiquement plus, elle est presque inexistante, quoi. En plus, je suis abonné à 3 revues. Ça fait que je suis en permanence au courant de tout ce qui se passe dans la communauté. Et quand j'ai fini de les lire, tous les copains du village me les demandent parce qu'ils sont intéressés.
J'ai grandi à Bastia. J'ai vécu à Bastia, je me suis intégré à Bastia, j'ai parlé corse avant de parler français à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire que j'ai l'appartenance juive et l'appartenance corse. Alors, ça me fait les deux. J'ai la chance d'appartenir à 2 minorités, la minorité juive et la minorité corse.
En tout cas, une communauté juive de Corse très attachée à son intégration dans la vie locale et aux valeurs de la République.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Dans les musiques un peu oubliées, il y a cet enregistrement du 24 novembre 1960 avec l'orchestre de Robert Chauvigny, Jérusalem, une musique composée par Robert Chabrier, des paroles de Joe Moutet et donc la voix inimitable d'Édith Piaf.
Du chemin de Jérusalem. surgit la lumière du monde. C'est un soleil nouveau qui renaît dans le soleil de Jérusalem.
Oui, papa.
Zlabia, prête-moi des livres en français.
Des livres? Pourquoi faire, papa?
Une dictée. Je vais devenir le rabbin officiel de notre communauté.
Mais papa, tu es déjà le rabbin.
Non, je suis juste rabbin comme ça.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec qui est rabbin ici, les Français? Et pourquoi ils veulent te faire faire une dictée?
C'est pour voir si je suis apte. Tu veux pas qu'ils mettent n'importe qui rabbin officiel, non?
Moi, je trouve ça vexant qu'ils te fassent faire une dictée.
Oh, mais qu'est-ce que tu comprends, toi? Donne les livres.
Et toi, sois utile, dicte-moi.
Daphnis et Alcimadure.
Qu'est-ce que c'est?
Le titre.
Une fable de La Fontaine qui a un titre pareil.
Oui.
Choisis-en une autre.
Le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va?
Oui.
Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers.
Demain, dans Fidèles au poste, nous aurons rendez-vous avec Woody Allen. Alors, soyez fidèles dès 14h et n'oubliez pas que cette émission et toutes les précédentes sont disponibles sur le site de notre radio. À demain !